Avec son million d'abonnés sur YouTube et ses dizaines de millions de vues mensuelles sur tous les supports, TVL n'est pas simplement devenu le média alternatif incontournable. Nous sommes aussi la première cible du système. L'objectif est simple désormais, nous faire disparaître. L'an dernier, les attaques ont pris une ampleur sans précédent avec la fermeture de nos comptes bancaires, sans raison. À la clé, je vous l'ai déjà dit, des pertes de plus de 440 000 euros. Et malgré votre mobilisation, ce coup a sévèrement frappé TVL, je ne vais pas vous le cacher. Mais au prix de concessions, d'une gestion en bon père de famille, nous avons pu continuer à mener notre mission première, vous informer. Nous avons aussi décidé de riposter. Aussi, nous poursuivons en justice les banques et tous les acteurs de ce mauvais coup. Et la procédure a déjà donné lieu à des irrégularités dignes d'une république bananière. Par exemple, une des parties a tout simplement été prévenue d'une perquisition avant même qu'elle ne soit menée, rendant alors l'opération sans intérêt. Des fuites concertées, des complicités, des mensonges, le tableau qui se dessine face à nous n'a rien à envier à une organisation mafieuse et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mener ce combat sans reculer, nous vous le devons. Mais nous avons aussi un besoin impérieux de votre soutien et de votre aide financière. Car la perspective de 2027 rend la mission de TVL crucial. Notre indépendance totale, exempte de pression d'actionnaires, de milliardaires, de publicitaires ou de puissances étrangères, nous permet de n'avoir de compte à rendre qu'à vous et vous seul. La contrepartie de ce modèle unique, c'est qu'il ne repose que sur vous. L'avenir de TVL est donc maintenant entre vos mains. Faites un don et choisissez une information vérifiée, sérieuse et vraiment libre pour aiguiser votre opinion. Je compte sur vous dès à présent.
Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Nous allons passer toute l'émission avec l'abbé Fabrice Loiseau, qui est fondateur d'une très belle congrégation qui s'appelle les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Vous savez, ce sont ces prêtres en blanc avec une ceinture noire, en soutane blanche avec une ceinture noire, qui ont une tête de spahis ou de militaires français nord-africains, toutes nos troupes coloniales de l'époque de l'Empire, qui sont spécialisées dans l'apostolat à destination des musulmans. Et donc, avec l'abbé Loiseau, nous allons parler de son tout nouveau livre, « Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu ?» Eh bien, bonjour, chers amis téléspectateurs. Très heureux de recevoir l'abbé Loiseau. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour.
Je vous reçois pour parler, on fait donc une émission spéciale sur votre livre « Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu ?» Sujet un peu chaud. Mais d'abord, peut-être on pourrait commencer par vous présenter un peu aux téléspectateurs, puisque nous connaissons depuis quelques décennies, mais tout le monde ne vous connaît pas. Vous êtes le fondateur des Missionnaires de la Miséricorde Divine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... oiseau-là.
C'est une communauté de droit diocésain et qui s'est créée en 2005 avec l'encouragement de Monseigneur Ray, avec ce désir de mission, de nouvelle évangélisation. Et Monseigneur Ray m'a dit, bah, il faut que ces intuitions missionnaires, ça soit l'occasion de créer une communauté. Alors d'abord, on essaye de vivre de la miséricorde divine, particulièrement de la spiritualité de Sainte Faustine, de Jean-Paul II, comme spiritualité sacerdotale. Et puis, c'est l'essence même du christianisme, la miséricorde. l'adoration eucharistique, nous vivons la liturgie dans la forme extraordinaire, et puis la nouvelle évangélisation avec beaucoup d'annonces directes, de missions de rue, de processions, et puis une attention particulière pour les musulmans.
Alors, donc vous êtes basé à Toulon, ça a commencé à Toulon, maintenant vous avez des implantations dans plusieurs autres diocèses de France.
Oui.
Et vous êtes combien ?
Alors, on est une quarantaine et on est où il y a à la fois des séminaristes en majorité, nous sommes 10 prêtres et nous avons 6 diacres en attente.
D'accord,
et
on
puis
va
des
venir.
Frères. Voilà.
Et justement, puisque parmi les choses pour lesquelles on prie régulièrement pour les missionnaires de la miséricorde divine, c'est que des diacres attendent l'ordination. Ça a été un des problèmes qu'on a eu avec le départ de Mgr Rey. Vous en êtes où sur les ordinations ?
Eh bien, nous demandons au Saint-Père, puisque l'une des difficultés qui se pose, comme nous sommes une communauté de droit diocésain, et donc depuis le motu proprio du pape François, il nous est demandé que les ordinations aient lieu dans le nouveau rite, et puis avec donc la nouvelle liturgie, et aussi que les sacrements que nous devrions donner soient dans le nouveau rite. Donc, comme cela ne correspondait pas à nos constitutions, nous avons demandé au Saint-Père de pouvoir trancher et de pouvoir continuer comme d'autres communautés. D'accord. À célébrer dans le rite traditionnel.
Eh bien écoutez, nous continuerons à prier pour ça en espérant que le pape donne un signe d'apaisement parce qu'on a quand même bien besoin de paix dans l'Église. Mais on va en venir quand même au vrai sujet de votre présence ici qui n'est pas la supplique au pape puisque pour l'instant ça nous échappe assez largement. Ça vous échappe même à vous. Donc on va probablement pas faire tout de suite un synode avec les spectateurs. Ce que je propose c'est qu'on parle tout de suite de l'annonce aux musulmans puisque donc c'est un des charismes, une spécificité de votre institut. D'abord, c'est pourquoi cette idée d'évangéliser les musulmans, spécialement les musulmans, d'où ça vient ça ?
Ça vient de mes premières années de ministère où j'ai été amené à conduire au baptême des personnes d'origine musulmane et je me suis rendu compte de la souffrance, de la difficulté, de la rupture parfois culturelle, familiale qui pouvait avoir lieu. Et je me disais que nos communautés chrétiennes n'étaient pas toujours conscientes des efforts qui étaient demandés. Et puis évidemment, la progression de l'islam dans notre société française, qui est quand même une réalité, et la progression des conversions à l'islam, ce qu'on oublie souvent. On se réjouit du nombre important de baptêmes, et c'est une bonne chose, et de conversions, mais n'oublions pas, pour pas se réjouir trop vite quand même, et que ce n'est pas le moment de parader, qu'il y a à peu près entre 7 et 10 000 conversions à l'islam chaque année de Français. Et donc, il est important que nos chrétiens soient formés, connaissent les différences. Alors souvent, les Français qui se convertissent à l'islam ne sont pas des catholiques pratiquants, mais je pense qu'il y a quand même un manque de formation sur l'essence même du christianisme, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, face à l'islam qui s'affirme avec beaucoup de force, avec une identité très forte, il y a un côté séduisant.
Oui. Ouais. Et de fait, on comprend très bien comment on peut être séduit par l'islam, ne serait-ce que le côté un peu viril, dans un monde où c'est très mal vu, ça a un côté attirant. Enfin, c'est un peu comme la logique de l'activisme identitaire de l'autre côté de l'échiquier politique, si je puis dire. Je comprends très bien pourquoi ça peut attirer. Mais par ailleurs, je pense que ça joue aussi beaucoup sur l'ambiguïté. Moi, je suis très frappé du nombre de fois où, quand on discute en 30 secondes avec un musulman, il vous dit mais on vénère Marie, mais on vénère Jésus, etc. Il dit, ouais, d'accord, mais vous ne vénérez pas le même. Et donc, dans la réalité, peut-être de parfaite bonne foi, mais c'est complètement ambigu quand même.
Oui, c'est toute la complexité de l'islam. C'est que nous avons une religion qui a une certaine culture biblique, et qui a des personnages en commun. On a quand même 25 prophètes qui sont à peu près en commun, mais qui n'ont pas la même histoire.
Et c'est ça.
Et donc on voit qu'il y a des emprunts qui sont faits au judaïsme et au christianisme, et il y a aussi les commandements d'Allah, il y a quand même beaucoup de choses en commun, beaucoup de vocabulaire, mais les significations ne sont pas les mêmes. Et donc ce qui crée toute la difficulté. Et évidemment, le prophète Issa dans l'islam, qui est Jésus, a une une histoire différente, et ce n'est pas du tout la même approche théologique. Et voilà, la complexité des personnages comme Mariam, la mère de Jésus, son histoire, il y a même sourate pour elle dans le Coran, mais son histoire est inspirée d'apocryphes, et surtout, évidemment, elle n'est pas la mère de Dieu, et elle est comparée à Marie, qui est la sœur du prophète Aaron. Et donc, il y a une difficulté qu'il faut essayer de résoudre. Donc, voilà, toute la complexité, il faut clarifier les choses. Ouais. Et le dialogue ne peut se faire et l'annonce que dans la vérité.
Oui, parce que par ailleurs, effectivement, moi, ce qui m'a toujours frappé dans le dialogue interreligieux, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui fâche, il faut surtout le mettre sous le tapis. Et alors, pardon de le dire un peu brutalement, mais il faut quand même... Enfin, la profession de foi musulmane commence par un refus de la Trinité, c'est non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu.
Pas de divinité qu'Allah, ouais.
Et c'est quand même, enfin, c'est d'abord, enfin, en fait, ça ne tient que parce qu'il y a la foi trinitaire qui est en fait la boussole qui indique le sud pour eux. Et donc, ils ont besoin de notre foi trinitaire pour dire, nous sommes plus monothéistes que les chrétiens. Et donc, on ne peut pas faire comme si c'était compatible. C'est profondément incompatible.
C'est profondément incompatible sur les dogmes de foi essentiels, sur les trois grands mystères de la foi chrétienne, la Trinité, l'incarnation et la rédemption. Donc, la foi musulmane dit autre chose. C'est le refus absolu de la Trinité, car vous introduisez une pluralité de personnes, ce qui ferait penser à un polythéisme, et vous associez quelque chose d'humain, comme le fait que Dieu soit Père. C'est le refus de l'incarnation. Donc, parce que Jésus n'est surtout pas Dieu, vous blasphémez, et vous allez commettre le péché de Shirk, qui est un péché vraiment terrible.
Le plus grave,
le plus grave, si jamais vous finissez par dire que Jésus est fils de Dieu et qu'il va assumer une nature humaine, parce que ça veut dire alors pour eux que nous allons avoir un Dieu qui va avoir des besoins humains, qui va avoir une manière de penser humaine, et c'est inconciliable avec le sens de la transcendance divine. Et puis c'est le refus de la croix, et pour nous c'est au cœur la rédemption du mystère du salut, et pour eux Jésus n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. Et on peut dire donc sur les trois grands mystères chrétiens, c'est une autre vision. Alors je crois qu'aujourd'hui, le dialogue quand même évolue. Je crois qu'on se rend compte, on n'est pas là pour se faire plaisir et essayer d'éviter les sujets chauds, et c'est pour cela qu'il est important de présenter sa foi. C'est tout le sens du document Dialogue et Annonce de la Commission pour le dialogue interreligieux à l'époque, en 91, et puis la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui avait sorti ce document pour dire que le dialogue n'est pas une fin en soi, et le dialogue c'est dire la vérité, et c'est aussi l'annonce.
Et puis, mais en sens inverse, dans votre petit livre, à plusieurs reprises, je me suis dit... Quand les musulmans nous challengent, si je puis dire, de temps en temps, c'est pas mauvais quand même qu'on nous... Parce qu'on peut être nous-mêmes tentés de voir la Trinité comme une espèce de trithéisme. Et donc, il est pas mauvais aussi qu'on dise, non, mais attendez, on a la même unicité de Dieu. Elle est beaucoup plus profonde parce que nous, on pense que ce Dieu est par ailleurs trinitaire, mais on croit en un seul Dieu, pas en trois.
– Bien sûr. Et c'est pour cela que l'islam est un peu un défi pour le christianisme. C'est pas le prendre d'abord comme un ennemi, mais comme un défi qui nous oblige, eh bien, à témoigner de notre foi et aller beaucoup plus loin. La grande difficulté sur des questions comme la Trinité, c'est que nous rendons compte de notre foi, évidemment, à partir de la parole de l'Écriture, de relations d'amour qui ne rentrent pas dans la conception musulmane. Et au cours des siècles, le magistère va se fonder sur la philosophie et sur la notion, évidemment, de substance, de relation, de personne, et qui ne rentre pas non plus dans le concept musulman. Alors, c'est ça la difficulté, mais nous devons évidemment professer le fait qu'il n'y ait qu'une seule substance divine, voilà.
Et d'ailleurs, c'est quand même une bonne nouvelle qu'aujourd'hui, la nouvelle traduction du credo soit revenue à la consubstantialité, parce qu'avant, on pouvait donner par prise aux musulmans de dire, vous croyez que c'est la même nature.
Bien sûr, parce que la nature, c'est un concept très large.
Oui, absolument.
Voilà.
Nous avons la même nature,
nous
n'avons pas la même substance.
On n'a pas la même substance. Et donc l'unicité s'éloignait, et donc il pouvait y avoir, pour certains, un danger de trithéisme.
Et peut-être qu'on pourrait revenir, parce qu'au début de votre livre, vous avez un passage que j'ai trouvé très stimulant sur les relations entre foi et raison. Évidemment, on ne pense pas spontanément à parler de ça quand on parle de dialogue avec l'islam, mais je pense que c'est un peu au cœur du sujet, parce que pour eux, c'est quasiment de l'idolâtrie d'essayer de rendre raison de ce qu'on croit et d'essayer d'interpréter le Coran, alors que pour nous, c'est vraiment la démarche naturelle de l'approfondissement de notre foi.
Alors, c'est tout un débat. Tout un débat. Un certain nombre d'historiens musulmans disent que la porte de l'ijtihad, qui est l'interprétation rationnelle du Coran, a été fermée au Xe siècle à Bagdad. D'autres disent, mais non, il y a toujours eu des commentaires, et d'ailleurs, regardez, il y a des commentaires. Mais souvent, les commentaires sont d'ordre spirituel et
ou juridique, c'est ça.
Et, ou alors linguistique. Mais rares sont une véritable réflexion sur la révélation. En revanche, je suis assez impressionné de voir qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'apologétique musulmane qui essaye de défendre, par exemple, l'existence de Dieu à partir de la création. Et d'accord. Ça, dans beaucoup de librairies, ils défendent cet aspect-là. Donc, il y a quand même, on peut pas dire, ce serait pas honnête, qu'il n'y a pas d'approche philosophique. Il y a quand même un essai, et puis ils essayent de comprendre aussi les conséquences aujourd'hui d'une anthropologie qui n'a plus de Dieu et dont, jusqu'où ça va. Donc, il y a quand même chez certains penseurs une réflexion, mais on peut pas dire que ça soit l'essence de l'islam aujourd'hui. Voilà, c'est quand même
alors que pour nous, c'est pas facultatif. En fait, on peut pas s'en passer du dialogue sur les raisons.
On peut pas s'en passer parce que c'est l'histoire même du christianisme. Et c'est le rapport à la tradition qui est très important, puisque nous avons dans notre foi catholique, non seulement la révélation s'est faite évidemment par le Verbe, qui est le cœur, c'est d'abord la rencontre avec une personne, mais c'est évidemment la parole écrite qui est la Bible, et puis la parole orale, qui est la tradition de ce dépôt sacré qui a été transmis aux apôtres et qui va se transmettre tout au long de l'histoire par la liturgie, la patrologie, le sens commun des fidèles, mais c'est le magistère qui va trancher. Et donc il y a toujours, dans la vision chrétienne, le fait que ces paroles sacrées doivent être rendues présentes à chaque époque.
– Elles restent vivantes.
– Et elles restent vivantes et elles restent explicitées, non pas pour être modifiées à chaque époque, mais de manière à pouvoir mieux rendre compte. Donc l'appel à la raison, à l'interprétation, fait l'histoire du christianisme, comme d'ailleurs dans l'histoire du judaïsme aussi, il y a toujours eu énormément de commentaires. Ce qui est nouveau, évidemment, avec l'islam, c'est la notion de parole incréée, où là, chaque lettre est révélée par Allah. Et il y a une parole qui est co-substantielle, à co-éternelle, on pourrait dire, à Allah, et qui est descendue telle qu'elle, sans passer par l'intelligence. –
Et donc, on ne peut même pas la traduire, en fait, en théorie.
– Alors, normalement, donc la permission a été donnée par les universités de la traduire, mais la parole vraiment sacrée, c'est l'arabe. –
C'est l'arabe, c'est vrai.
– C'est l'arabe, et c'est chaque lettre. Et donc, il est nécessaire d'être soumis, et il y a donc un danger, toujours dans une interprétation subjective. Mmh. Et donc le rôle de la raison n'est pas mis en avant. Ce qui est important, c'est la soumission de l'homme au commandement d'Allah.
Là aussi, on pourrait peut-être en prendre de la graine, parce que c'est pas forcément si mauvais que ça de refuser le subjectivisme. Pardon d'être un peu l'avocat du diable, mais…
Non, mais vous avez raison, et c'est pour ça qu'il existe des valeurs chez les musulmans, et que le dialogue est là pour nous stimuler et essayer de comprendre aussi ce qu'il y a de noble et de vrai, et dans une période où le relativisme, le subjectivisme émettent, le fait qu'il y ait une parole qui descende du ciel et qui nous demande, qui demande à la communauté de croire et de se soumettre, il y a évidemment quelque chose de beau à travers cela. Il y a une vraie dimension religieuse. La difficulté, évidemment, c'est de savoir si on répond à cette parole avec notre liberté, notre amour, et si la grâce nous transforme. Donc l'enjeu, il est là, mais évidemment qu'il y a un sens de la transcendance, de l'absolu, qui n'est pas inintéressant dans l'islam et qui doit faire partie de notre dialogue interreligieux.
– Alors justement, vous parliez un instant de liberté. Quelle est la place de la liberté dans l'islam et comment nous, parce que pour le coup, je pense que les chrétiens sont mieux armés en matière de liberté que les musulmans. J'allais dire presque par définition, parce que eux, c'est des soumis. Alors, ça a un côté beau, mais ça a aussi un côté un peu inquiétant.
– Alors, ça dépend beaucoup des écoles musulmanes.
– Oui, c'est vrai.
– Ça dépend des écoles musulmanes. Aujourd'hui, l'école en balite a une forte prédominance et il est quand même dit dans le sixième pilier de la foi qu'il y a le destin, le qadar, qui a cette volonté d'Allah et que Allah est maître de tout ce qui existe, aussi bien du bien que du mal. Et donc il a tout décidé. Et donc puisque tout ce qui existe est décrété, voilà. Alors certains disent, mais il a décrété la possibilité pour nous de dire non aussi. Et donc quand il y a le mal, c'est vu. Mais on voit qu'il y a une difficulté sur le plan philosophique et théologique de rendre compte de la liberté. Ce n'est pas suffisamment exprimé comme chez nous, ce refus de l'amour divin et la possibilité pour l'homme de s'épanouir dans le bien en répondant à l'appel de Dieu, il y a une difficulté de prendre la liberté comme un risque dans l'islam, de se détourner d'Allah et de se détourner de cette volonté. Donc du coup, la liberté est souvent, je ne dis pas tout le temps, parce que ça dépend des auteurs, mais est souvent vue comme un danger. Et que ce que l'homme doit vivre, c'est d'abord la soumission à la parole d'Allah. Et c'est là où il sera dans la fidélité à Dieu.
Ouais. – Avec en plus ce côté destin, où dans la pratique, moralement, on ne peut quasiment rien faire, ni de bien ni de mal. Si notre destin nous… si Allah nous a créés pour l'enfer, voilà, ce n'est pas de notre faute.
– Dieu fait miséricorde à qui il veut et il condamne qui il veut. Mais là aussi, suivant les écoles, certains disent non, mais quand il condamne qui il veut, c'est quand même il nous a donné aussi des moyens pour aller vers lui. Donc si on se damne, c'est qu'on le veut bien. Il faut rendre justice quand même à certains musulmans qui considèrent que ceux qui font le mal le font volontairement. Mais c'est vrai que cette insistance sur le décret divin, sur les événements et sur l'histoire, que tout est voulu par Allah et que tous les événements sont le fruit de la volonté d'Allah, il y a un risque de ce que nous on appelle dans l'histoire du christianisme la prédestination.
Oui, bien sûr.
Et donc, voilà.
Et même au plan philosophique, il y a quand même un sujet, c'est l'existence des causes secondes qui sont, évidemment, Dieu est la cause première, ça, personne ne conteste, mais que les causes secondes puissent avoir une forme d'autonomie par rapport à la cause première.
Non, tout vient d'Allah.
Tout vient d'Allah.
Et donc tous les événements, et c'est pour ça qu'il y a à la fois une certaine résignation qui peut être belle face à des drames qui existent dans la vie en disant Inch'Allah et il y a une résignation, mais ça peut aussi entraîner une certaine passivité devant les événements. Et ça, c'est une difficulté. Et
voilà. Pour revenir au dialogue, alors je précise parce que ce petit livre est vraiment utile. D'abord pour les chrétiens, parce que ça permet de dire, là, il y a un problème dans le dialogue, il faut savoir que notre foi, c'est ça, et leur foi, c'est ça. Mmh. Et là aussi, à plusieurs reprises, je me suis dit, il y a deux, trois personnes qui mériteraient de se souvenir, par exemple, sur le jugement dernier, je doute que ça soit universellement professé dans les églises de France, qu'il y a un jugement particulier, un jugement universel, des choses comme ça. Et donc, évidemment, pour répondre à l'islam, on a quand même, il vaut mieux savoir un peu ce que nous, on croit. Donc, je voudrais revenir un peu à cette idée de... Comment le dire sans être trop méchant, mais il y a un peu une logique concordiste, si je puis dire, en fait, c'est une religion, c'est monothéiste, c'est abrahamique, c'est ceci, c'est cela, et donc on coche plein de cases en commun. Il y a plus que 5% qui sont, la Trinité, on va pas charrier quand même. J'exagère évidemment, personne ne le dit comme ça, mais il y a un peu de ça quand même.
Oui. Et oui, et je crois que ce n'est pas juste parce qu'il faut être en vérité, mais vous savez, quand on est dans un vrai dialogue avec les musulmans, ils vous rappellent très rapidement que votre foi n'a rien à voir avec la leur. Et ils le font avant même que vous ayez... Et donc, notre vision d'Abraham, notre vision de Jésus, notre vision de l'amour et du jugement n'ont rien à voir. Souvent, des musulmans que j'apprécie beaucoup me disent « mais on est très triste pour toi parce que si tu ne te convertis pas à l'islam, tu seras damné ». Et donc, voilà, une vision aussi du jugement assez radicale, quiconque n'appartient pas à l'islam ne peut pas être sauvé. Alors, c'est toute la difficulté, et c'est vrai qu'il y a des termes en commun, tels que jugement, mais le jugement pour la majorité des musulmans aura lieu à la fin du monde, au jour du Seigneur, et à ce moment-là, les morts sortiront de terre, mais il n'y a pas forcément de jugement particulier avant. Et le jugement dernier, il y aura une balance, et donc il y aura les bonnes et mauvaises actions, et il y aura un démon qui sera là pour rappeler ce qui s'est passé. Alors je ne dis pas que cette idée de balance n'a pas été présente dans le christianisme, d'être sauvé par les bonnes actions et par les bonnes œuvres, mais nous maintenant que nous sommes d'abord sauvés par la grâce du Christ, et par le mystère de la rédemption, et par la grâce, et par la fidélité à la grâce, et qu'on sera aussi jugé sur l'amour, et qu'il y a un Dieu aussi miséricordieux. Donc la perspective n'est pas, vous voyez, la même. Et sur le fait, par exemple, de la religion abrahamique, là aussi, on entend souvent dire, mais eux ne souhaitent pas qu'on dise ça, parce que la vision d'Abraham n'est pas le même.
Pas du tout. Hein.
Parce que nous, la vision d'Abraham, c'est le père, avant tout, de celui qui sera un jour le Messie universel. Et il est bien dit qu'en ta postérité, toutes les nations seront bénies. Donc il y a une dimension universelle, et c'est le père du Messie, ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas la vision de cette élection du peuple juif dans l'islam avec une dimension universelle, car l'élection du peuple juif dans la vision biblique, elle a cette dimension universelle, en vue évidemment de l'accomplissement messianique. Et donc on n'est pas du tout dans cette vision-là. Et d'ailleurs, l'enfant de la promesse sera Ismaël et pas Isaac.
C'est ça,
et donc le père des Arabes. Donc voilà.
Et peut-être que ça nous fait une bonne transition, parce que un des sujets majeurs qu'on a dans l'évangélisation des musulmans, c'est le côté communautaire ou identitaire, comme vous voudrez. C'est très difficile de choisir la Trinité, pas spécialement pour une question doctrinale. Évidemment, c'est pas facile d'adhérer au dogme de la Trinité, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ça qui bloque principalement. C'est que si un musulman fait ce choix-là, il se coupe de sa famille, de sa communauté, et donc il a le poids qu'il a apporté de sa conversion est beaucoup plus lourd que notre propre poids. Si un Gaulois décide de demander le baptême, c'est pas du tout la même chose. Alors j'imagine que ça doit être un peu la même chose quand on passe du communisme au christianisme, parce qu'il y a un côté un peu islamique dans le communisme. Mais il n'empêche que il y a quand même cette l'ouma qui un peu décide pour nous ce qu'on doit faire à tel moment, on doit manger de telle façon, etc. Comment est-ce que vous répondez à cette... parce que j'imagine que quand vous avez des catéchumènes musulmans, le sujet vient régulièrement sur la table. Comment vous répondez à ça ?
Alors, on a différents cas de figure. Il y en a, par exemple, qui sont totalement coupés de leur famille, et puis vous en avez qui gardent des liens. Tout dépend un peu de l'histoire de la famille, des amis, mais c'est toujours un cheminement très douloureux. Moi, je connais des catéchumènes ou des néophytes qui n'ont plus aucun lien avec leur famille, et qui même craignent pour leur sécurité, parce que c'est puni par, vous le savez, normalement, la peine de mort. Et on se souvient que certains imams, dont un expulsé récemment, n'avaient pas hésité sur des chaînes YouTube à dire qu'ils méritaient une balle dans la tête. Donc, c'est une réalité, c'est une souffrance, et c'est pour cela qu'on a... Quand une personne d'origine musulmane devient chrétienne, elle a besoin d'être accompagnée et d'être entourée. Que nos communautés chrétiennes, nos paroisses ne sont pas suffisamment conscients, eh bien, du cheminement difficile qui a lieu, et il y a besoin d'entourer ces personnes.
Est-ce que, pour le dire de façon un peu caricaturale, est-ce que nos communautés pourraient devenir un peu plus communautaires, si je puis dire ?
Oui, ils pourraient. Et je crois que c'est l'une des forces, d'ailleurs, de l'islam. C'est ce côté de l'Ouma, ce côté communautaire. Beaucoup de conversions ont lieu au moment du Ramadan, parce qu'il y a un côté chaleureux, familial, accueillant, et que nous sommes quand même dans un héritage un peu individualiste, quand même. La manière d'exprimer notre foi. Et même pour les processions, il faut parfois secouer un peu tout le monde pour avoir une démonstration publique aussi de la foi. Mais la foi ne se vit pas que de cette manière-là. Elle se vit évidemment à travers des actes au quotidien de charité, et que ça manque parfois un peu. Et donc, il y a évidemment, c'est un aiguillon. Les musulmans sont un aiguillon pour inviter les chrétiens à aussi une charité plus forte. Et une démonstration aussi de la foi. Oui.
Et pour continuer dans cette logique-là, donc il y a évidemment l'annonce, l'évangélisation, et puis donc il y a l'accompagnement des néophytes, parce que on parle beaucoup de néophytes abandonnent parce que sociologiquement ils sont pas à leur aise. Et ce qui est, encore une fois, moi je jette absolument pas la pierre. Hein, je comprends très bien que ça soit difficile, surtout dans l'Église de France actuelle qui est quand même très CSP+. Enfin, il y a un côté un peu caricatural sorti de messe à Versailles. Donc j'imagine évidemment que le Nord-Africain qui arrive réellement convaincu de la Trinité, c'est pas son monde. Comment est-ce qu'on... Donc évidemment, on va pas changer, mais il faut quand même qu'on soit capable d'être réellement frère de ce type-là. Et donc, est-ce qu'il y a des groupes de néophytes d'origine musulmane ? Comment ça s'organise un peu de façon concrète ?
Je crois que chaque paroisse, chaque diocèse a un peu ses propres solutions. On fait ce qu'on peut. Par exemple, dans le diocèse de Toulon, il y a un prêtre qui était d'origine algérienne qui a fait des réunions avec tous ceux qui s'étaient convertis. Il y a aussi un accueil dans le diocèse de Paris. Donc voilà, nous on essaye d'organiser aussi des repas en mélangeant les personnes. Donc je crois que c'est un peu à chaque communauté de trouver, s'adapter. De s'adapter et de faire ce que l'on peut. Mais c'est vrai que la différence sociologique compte quand même. Hein, ouais. Et c'est vraiment une difficulté. Et du coup, ça doit obliger nos communautés chrétiennes, pas seulement d'ailleurs pour les musulmans, mais pour les différentes personnes qui arrivent, hein, qui ont demandé le baptême récemment, qui ne sont pas forcément du même milieu social. Et donc, il y a un effort.
Et qui ne connaissent pas les codes, quoi, tout simplement.
Qui ne connaissent pas les codes du monde catho. Et du coup, il y a un effort à faire de la part de nos familles, des fidèles, pour accueillir ces personnes.
Alors, peut-être pour terminer, vous avez un message d'espérance sur cette annonce à destination des musulmans, parce que d'un côté, on voit, j'allais dire, la submersion démographique. Alors évidemment, on peut se réjouir des baptêmes d'adultes, tout ça c'est vrai, mais enfin, le décalage numérique est assez impressionnant. Donc, je dis plusieurs fois à des évêques qui faisaient des bombes, parce que vous félicitez d'avoir quelques milliers de baptêmes d'adultes à Pâques, mais normalement, vous devriez baptiser à la lance incendie, ils sont de quelques millions quand même. Pardon, mais est-ce que vous avez un message d'espérance à donner sur ce sujet ?
Oui, j'ai un message d'espérance sur cette question-là, c'est qu'on est dans une période très particulière où il y a quand même beaucoup de conversions des musulmans au christianisme. Alors, en France, dans les chiffres de l'Église, il semblerait que ça soit entre 10 et 20%, donc cette année, comme il y en a eu 10 000, voyez, on pense à peu près à 2 000, bon, beaucoup se convertissent aux églises évangéliques, qui sont très missionnaires, qui vont dans tous les milieux, qui ont l'audace de la foi. Et il ne faut pas les caricaturer en disant que ce sont des prosélytes. Mmh. Voilà, moi je connais le pasteur Saïd Oujibou, qui est un vrai témoin du Christ. Voilà, et alors évidemment, beaucoup, et puis aussi peut-être parce que nos communautés catholiques ne sont pas suffisamment accueillantes, beaucoup de... En tout cas, il y a un phénomène aussi qui a lieu dans les pays musulmans, et ça c'est unique dans l'histoire de l'islam, c'est que beaucoup se convertissent par des phénomènes surnaturels.
Oui.
Donc, soit ils ont des rêves, ils ont vu
la Vierge Marie,
un homme en blanc qui avait une barbe, c'était pas moi, c'était vraiment le Christ. Ensuite, ils ont pu avoir des expériences spirituelles, j'en connais un, qu'on a baptisé au cours d'une messe, au cours d'une formation scout qui a pu découvrir l'Eucharistie et il a été saisi par le Christ. Et donc, il y a énormément de conversions qui ont lieu par des phénomènes spirituels. Et je crois que le Seigneur veut nous dire quelque chose.
Oui,
il veut nous dire quelque chose, c'est lui-même, du coup, qui s'y colle, parce qu'on ne fait pas toujours le travail. Mais en tout cas, c'est énormément de conversions, même en Indonésie, même dans les pays du Maghreb, même en Iran. Il y a des conversions impressionnantes. Et moi, j'ai été en Algérie, j'ai pu visiter des villages entiers qui étaient devenus chrétiens, souvent évangéliques, et qui m'ont très bien accueilli, comme pour eux, vous ne savez pas la différence entre un prêtre ou un pasteur. Et donc, alors sachant qu'en Algérie, ils sont particulièrement persécutés en ce moment.
– Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, Fabrice Loiseau, chrétien et musulman, avons-nous le même Dieu? C'est paru chez Arthège. Et, chers amis téléspectateurs, évidemment, je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa bibliothèque, parce que si on veut faire face aux défis que traverse la France et l'Église en ce moment, on doit savoir répondre de la foi qui est en nous. Merci, monsieur l'abbé.
Merci à vous.
Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogende qui animera Terre de Mission. Et nous nous retrouvons dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.